des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Jean-Marie Roire, merci de bien vouloir nous recevoir pour nous parler de Sacha Guitry. Dans un article qu'il vous consacrait, Antoine Blondin, pour votre premier livre, vous situez dans la lignée de Roger Nimier, vous comparez à Roger Nimier. Est-ce que vous n'auriez pas une filiation avec une lignée, en effet, littéraire qui n'est pas forcément drôle, comme celle de Guitry, mais qui se situerait dans ces parages-là?
Alors, en effet, cette référence faite par Antoine Blondin à Roger Nimier est très flatteuse, parce que c'est un très bon écrivain. Je crois qu'un écrivain a une famille nombreuse. Il est relié à beaucoup d'autres écrivains qui font écho sur une facette de sa personnalité, de son talent. Néanmoins, ce qu'il y a de certain, c'est que je me situe dans une perspective d'écrivains qui ne sont pas des écrivains hermétiques, qui ne sont pas des écrivains de laboratoire. Voilà. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer des écrivains qui sont très différents de moi, puisque j'ai été très longtemps directeur du Figaro littéraire, donc je devais, et même si je n'étais pas responsable littéraire, il faut pouvoir, comme disait Flaubert, admirer ce que l'on n'aime pas. Et donc, c'est vrai que j'aime bien les Hussards, que ce soit Michel Déon, Nimier, Blondin, c'est exact. Mais ils sont très éloignés de Sacha Guitry.
Oui, mais vous parliez de laboratoire. Or, Sacha Guitry, comme vous d'ailleurs, d'une certaine manière, dans Le Scandale ou dans d'autres livres, traite un peu les êtres comme des souris de laboratoire, puisqu'il parle beaucoup des femmes, et vous aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté entomologiste chez Guitry?
Vous savez, traiter les femmes comme des souris de laboratoire, ça serait peut-être pas très gentil. Je pense que même si je les ai maltraitées, comme vous dites, ce n'est pas mon sentiment, je ne crois pas que ce soit allé jusqu'à les torturer et les transformer, leur inoculer les poisons. Je ne crois pas. Mais enfin, je veux bien que ce soit une image. Non, je crois que ce qu'on appelle la littérature de laboratoire, ce n'est pas la littérature de l'expérimentation sur des êtres. C'est une forme de littérature, disons, comme le nouveau roman, qui est une littérature, disons, de réflexion sur le roman plutôt que de développement du roman. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fiction qui a pour ancêtre le mythe. Ça, c'est vrai. C'est le point de départ, c'est une histoire. Que cette histoire soit ait un sens, que cette histoire ait un contenu philosophique, que cette histoire donne à la fois du plaisir, de la réflexion, et qu'elle ait un écho dans notre subconscient, tout ça, je pense que c'est important. Je pense que ce n'est pas seulement une petite histoire, comme, et même les histoires pour enfants, les contes pour enfants, ont cette vocation. Mais à partir de là, cette histoire, ça peut donner être aussi bien Proust, ça peut donner aussi bien Madame Bovary, ça peut donner... Donc, l'écrivain, il greffe son propre talent, s'il en a, son génie, s'il en a, il fait ce qu'il peut.
Sacha Guitry, c'était le roman d'un tricheur, c'est-à-dire il a toujours considéré l'autobiographie comme à la fois... J'ai revu pour cette interview « Mon père avait raison » et il parle fort bien du mensonge. Le jour où on devient adulte, c'est le jour où on ment parce que des choses dépassent, vous dépassent par amour ou par goût du mensonge, tout simplement. Est-ce que chez Guitry, il y a cet art du mentir vrai, comme dirait Aragon? Vous en avez d'ailleurs parlé dans les 44 écrivains, vous parliez des 44 écrivains méconnus, qui sont assez variés, puisque vous parlez, je crois, de Mauriac et de plusieurs écrivains. Vous parlez aussi de Guitry. Pourquoi est-ce que Guitry, finalement, n'a-t-il pu entrer dans cette mythologie littéraire qu'était, c'est votre terme, qu'est l'Académie française?
On peut dire qu'il n'est pas le seul. Si on commençait vers la liste de tous les grands écrivains qui ne sont pas entrés à l'Académie française, elle serait nombreuse. J'ai même peur qu'elles soient plus nombreuses que ceux qui sont entrés. Mais lui-même avait une phrase merveilleuse à propos de l'Académie. Il disait « Je préfère être de ceux dont on dit « Pourquoi n'y est-il pas ?» que de ceux dont on dit « Pourquoi y est-il ?» Et il avait une autre phrase. Il avait proposé, c'est une chose que j'avais également proposée quand je suis rentré à l'Académie, c'était d'installer la statue de Balzac par Rodin, qui est boulevard Raspail, et de l'installer près, dans une petite place qui est à côté de l'Académie. Il disait, afin que les malheureux candidats qui viennent déposer leur candidature, eh bien, finalement, soient un peu rassurés, en voyant que le malheureux Balzac n'a eu que deux voix à l'Académie, et puis pour donner à quelques académiciens un peu la mesure de leur chance. Parce que si Balzac a été battu, il n'a obtenu que deux voix, ça prouve bien que c'est une loterie un peu, parfois, injuste. Alors, je pense que s'il n'a pas été élu à l'Académie, alors que bien entendu, il le méritait, ça, mais est-ce que c'est une question de mérite ? C'est une autre question plus complexe. Il n'y a pas que ça. Il y a l'Académie entérine l'ère du temps. Et l'Académie, d'une certaine façon, veut être sérieuse. Voilà. Alors, on se dit, rétrospectivement, Molière non plus n'a pas été de l'Académie. Et c'est un peu inquiétant. Et c'est ce qui a nuit à Sacha Guitry, mais pas seulement vis-à-vis de l'Académie, mais vis-à-vis de la société. C'est qu'étant un auteur drôle, un auteur amusant, on ne l'a pas pris au sérieux. On l'a moins pris au sérieux que Jean-Paul Sartre. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il avait moins de talent. Mais nous sommes rentrés dans une époque sérieuse. Nous sommes rentrés dans une époque... Ça a toujours été un peu le cas. Je veux dire, le tragique paraît plus profond que le comique. C'est ainsi. Moi, je ne partage pas cette opinion. Je considère que ce qui est important, c'est cette forme de vérité qui peut être recherchée par la voix du comique, du tragique, tragicomique, d'ailleurs. Et puis, en plus, il était acteur. Et l'Académie n'aime pas beaucoup les gens qui montent sur scène. Et puis, elle a gardé comme la religion catholique, vous savez, qui avait excommunié les acteurs. Elle considère que quelqu'un qui monte sur une scène, il dit un jour blanc, il dit noir. Une femme qui monte sur la scène, elle dit à un homme qu'elle l'aime. Cinq minutes plus tard, qu'elle en aime un autre. Donc, il y a une versatilité. Il y a un caractère de mensonges permanents qui a toujours fait peur donc à l'Église et qui inquiétait l'Académie.
Et est-ce que le cinéma n'a pas aussi joué contre lui, si je puis dire, puisque la grande partie de son œuvre a été faite au cinéma, avec un double qui peut-être lui ressemblait plus qu'on ne croit, qui était Pauline Carton, puisqu'il a toujours écrit des rôles spéciaux pour Pauline Carton, qui était au fond son alter ego féminin, peut-être. Peut-être que ce n'étaient pas les si jolies femmes comme Germaine de Lubac, Charlotte Lysès, etc. C'était peut-être Pauline Carton, son double.
Oui, mais enfin, je crois que le fait qu'il fait du cinéma, l'Académie, le premier metteur en scène qui a été choisi était René Clair. Je pense qu'elle a mis beaucoup de temps à comprendre l'importance du cinéma, et d'autant plus que c'était un homme de théâtre qui faisait du cinéma, et c'était un artiste qui faisait à la fois du théâtre et du cinéma. Mais, vous savez, l'explication qui me paraît la plus plausible, c'est qu'au fond, lui-même, n'y tenait pas tellement. Et vous savez, il y a deux sortes d'hommes, ou de femmes. Il y a ceux qui ont une idée un peu monoïdéiste de l'Académie, qui veulent absolument en être, puis ceux qui ne sont pas obsédés par cette question, et qui mesurent qu'au fond, le verdict de la société, eh bien, c'est un verdict aléatoire, qu'il ne faut pas diriger sa vie sur ce verdict. Et je dis ça d'autant plus à mon aise que moi, je me suis beaucoup battu pour entrer à l'Académie, mais que j'adore les gens qui n'ont pas envie de réentrer, parce que je trouve que, finalement, il n'y a pas que ça dans la vie. Je veux dire, il n'y a pas que la reconnaissance sociale, il n'y a pas que la Légion d'honneur, il n'y a pas que toutes ces reconnaissances ou ces hochets sociaux qui sont très agréables à obtenir, mais j'aime bien aussi les gens qui se disent qu'il y a une vérité qui est en dehors de la société. C'est une part de fantaisie et de jeu, de se dire, bon, bah, si on me le donne, très bien, si on ne me le donne pas, eh bien, je n'en mourrai pas. Et l'essentiel est ailleurs, et l'essentiel est dans cette vérité qu'il recherche.
Il y a peut-être une chose aussi qui vous lie ou que vous pouvez comprendre chez Guitry, c'est ce désir de la légitimité. Parce que quand même, il l'avait, il voulait plaire à son père. Vous parlez souvent de l'illégitimité, du fils illégitime. Ça revient souvent, j'ai remarqué dans votre œuvre. Vous parlez du duc de Borny, d'ailleurs. Vous parlez de beaucoup de choses. Il y a même dans votre premier livre, j'avais relevé le... Bon, c'est votre héros, évidemment, qui dit « Mon père n'est pas mon père, tant mieux ». Donc, il y a toujours un peu ce thème du père ou de la famille dans le scandale aussi, etc., qui revient. Or, lui a toujours écrit, au début, pour son père, pour Lucien. Il voulait attirer l'attention de son père. Et il a même été jusqu'à lui souffler sa maîtresse, puisque la première femme de Sacha, Charlotte Lizet, c'était la maîtresse de papa. Est-ce que là, vous reconnaissez un fil conducteur assez intéressant de Sacha Guitry ? Et peut-être douloureux, parce qu'il n'était pas que drôle.
Bien sûr, sous la drôlerie, sous l'esprit, il y a des blessures, comme chez tout le monde. Je veux dire, ce thème, de la bâtardise, du père, c'est visible dans beaucoup de pièces. C'est visible sur « Mon père avait raison », c'est visible sur le mime de bureau, je crois, ou qui est également des relations difficiles avec son fils. Et c'est vrai que, vous me le rappelez, c'est assez visible dans mes propres livres. J'ai beaucoup parlé du père, de la bâtardise, de la question à travers Morny. Et parce que j'ai toujours développé l'idée qu'un artiste, c'est un bâtard. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a une famille, mais qui a des liens finalement assez éloignés avec sa propre famille, et que sa véritable famille, ce sont les écrivains qu'il aime. C'est ce monde de l'idéal incarné par des gens qui ne sont pas de sa famille, disons, de l'état civil. Et il y a une raison de plus pour laquelle, peut-être, je me sens proche de ce thème, en effet, chez Guitry, c'est que j'ai eu des relations avec mon père, qui était un peintre, qui était un peu l'inverse des relations de Sacha Guitry avec Lucien Guitry, parce que le père, Lucien Guitry, était très connu, avait un homme de théâtre, un acteur qui était joué dans le monde entier. Moi, mon père était peintre, il était très méconnu. Il était quelqu'un de tout à fait en dehors de la société, justement, de tout arrivisme. Et à cause de ce spectacle qu'il m'a donné, d'un peintre un peu maudit, un peu tout en appartenant à une famille également de peintres qui avait eu un certain succès, eh bien, c'est ce qui a développé chez moi cette espèce de désir de conquérir la société comme un héros de Stendhal ou de Balzac. Et donc, j'ai noué une relation avec mon père qui était l'inverse. C'est que moi, j'avais le sentiment d'être le père de mon père et que je devais l'aider. Voilà. Finalement, je n'ai pas beaucoup aidé. Je n'ai pu peut-être que l'aider après sa mort en m'occupant un peu d'organiser des expositions autour de lui. Mais donc, ce qui n'empêche que, vous savez, comme on dit en psychanalyse, le plus et le moins sont la même chose entre avoir un père qui est très connu et qui vous écrase, de son vivant et qu'on plaint et avec lequel on a... C'est toujours une relation qui, finalement, arrive à une certaine équivalence.
Et les femmes ? Alors, il en a eu... Comme Henri VIII, on parle toujours des femmes, on énumère les femmes dont on ne se rappelle plus toujours les noms, de Sacha Guitry. Est-ce que, à votre avis, l'une des fascinations que nous éprouvons aujourd'hui pour Sacha Guitry, c'est cet art qu'il a eu de les conquérir toutes, finalement ? Avec tant de maestria et en faisant tant de bons mots, d'ailleurs.
Alors, hélas, s'il suffisait de conquérir les femmes et d'en avoir beaucoup et de se marier un nombre de fois pour avoir du talent, ça, je crois qu'à ce moment-là, je me serais marié. Parce que moi, je suis célibataire, donc c'est un point. Mais là encore, c'est comme en psychanalyse, le plus et le moins peuvent se rejoindre. Je crois que s'il a accumulé les mariages, c'est parce qu'il recherchait une femme idéale, il était finalement plus sentimental que ne laisse paraître ses mots, ses sarcasmes. Bon, sous les sarcasmes, on sent des souffrances, et il a dû réellement souffrir avec beaucoup de femmes, d'ailleurs on le sait. Mais il me semble que, d'une certaine façon, ce qu'il exposait au malheur amoureux, c'est un peu sa situation de metteur en scène et les femmes qu'il choisissait qui étaient des actrices. Parce que c'est vrai que la vie conjugale n'est pas facile, le mariage n'est pas facile, mais si on y ajoute les difficultés qu'entraîne le fait d'être metteur en scène et le fait d'être actrice, toutes les tentations qui peuvent se greffer, et puis ce caractère un peu volage qui représente la vie d'une actrice. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de déboires, mais beaucoup d'autres gens les ont connus. Ce qui est important chez lui, c'est qu'il en a tiré quelque chose. Voilà. Je crois que c'est ce qui fait le génie de Guitry, c'est pas qu'il ait parlé des femmes, c'est pas seulement qu'il ait parlé des rapports avec son père, c'est pas forcément dans les thèmes. Et c'est qu'il a introduit une fantaisie, un talent, et je dirais, je vais employer un mot qui n'est pas très aimé aujourd'hui, il a incarné une tradition française. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu resserré sur l'hexagone, resserré sur le... Ça fait franchouillard. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu des écrivains, tous les écrivains de langue française, et même des écrivains francophones, ils sont français, très bien. Romain Gary, qui est à la fois originaire de Russie, de Pologne, est tout à fait un écrivain français. Néanmoins, il y a une tradition qui va de Molière, en passant par Alfred de Musset, La Fontaine, qui va jusqu'à Sacha Guitry, ou aujourd'hui Jean d'Ormesson, qui est cette forme légère de dire des choses sérieuses. Voilà. Et c'est ce que j'appelle l'esprit français, et ce qu'on appelle l'esprit français. Alors que ça peut être chez des auteurs plus ou moins graves, ça peut être chez Verlaine, ça peut être chez Nerval, où il y a de la gravité, il y a de la douleur. Et puis, ça peut être un peu acide chez Octave Mirbeau, chez Jules Renard. Et ça peut être dans une veine fantaisiste, comme chez Paul-Jean Toulet. Voilà. Et lui incarne merveilleusement cet esprit français qui est à la fois... D'ailleurs, qui rend hommage à sa tradition, à ses ancêtres, qui sont bien sûr Molière. Et vous le verrez dans la dévotion qu'il a vis-à-vis des grands maîtres. C'est un homme qui aime ce qui est beau, ce qui est la grandeur. À la fois dans son musée, dans ce qu'il avait chez lui, dans les tableaux qu'il aimait, bien sûr, les manuscrits de La Fontaine ou de Molière, mais aussi dans le film qu'il a fait, qui s'appelle « Ceux de chez nous », je crois, où il a filmé Degas, il a filmé Ravel, il a été filmé Renoir, alors que personne n'a eu l'idée d'aller voir nos grands hommes, grands peintres, Monet aussi, pour rendre hommage à ces figures qui allaient disparaître. Et voilà. Donc, je crois qu'il est l'esprit français, c'était en même temps, sans une tradition française, de se dire, tiens, il y a une veine, comme vous avez une littérature allemande ou une littérature américaine, hein, il n'est pas question de dire qu'elle est supérieure, mais elle existe. Avec son génie propre. Et cela, je crois que c'est une de ses qualités, mais qui aujourd'hui lui nuit parce que nous sommes dans un monde, et j'en parlais avec Pierre Rosenberg à propos de la peinture, nous sommes dans un monde où la tradition française, c'est une tradition de modération. C'est une tradition dans les domaines de la peinture, c'est la tradition de Corot. C'est pas la tradition de Goya, c'est pas la tradition du Gréco, c'est une tradition de modération. Et c'est vrai aussi en littérature, c'est vrai que nous sommes un pays tempéré, modéré, et qu'aujourd'hui, il y a une irruption de la violence, de l'exagération, qui fait que la littérature française apparaît un peu fade et un peu raisonnable. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que sur le plan mondial, Guitry
a connu la violence aussi, puisqu'il y a bien répondu. Donc peut-être manquons-nous tout simplement d'imagination maintenant, comme le dit Félicien Marceau d'ailleurs. Elle dit que c'est parce que nous manquons d'imagination. Il l'a connu d'autant plus que le film dont vous parlez était une réponse, je crois, aux Allemands et au cocardisme, si je peux employer l'expression, allemand. Il répondait aux Allemands après la guerre de 14-18. Et on lui a reproché, bien entendu, vous le savez, les histoires de la libération, d'être le premier prévenu de la libération. Il a toujours répliqué, là ça devenait grave, là c'était aussi une violence finalement. Et il y a répondu par l'esprit. Est-ce que tout simplement nous n'avons plus confiance en notre esprit ?
Non, là vous évoquez le caractère grave, c'est son arrestation à la libération... sans aucun motif, sans aucun chef d'inculpation, puisque c'était certainement pas un résistant, mais c'était certainement pas non plus un collaborateur. Mais il faudrait replacer dans le contexte de l'époque où le fait d'être connu, d'être riche, d'être célèbre, et d'incarner le bourgeois, un peu le bourgeois, a fait qu'il y a une campagne contre lui, une campagne parfaitement ignoble, mais que vous savez, dont d'autres ont pu être victimes. Mais il n'y a eu personne pour défendre Guitry. C'est vrai que pour d'autres écrivains, il y a eu des défenses, mais pour Guitry, ce qui montre sa solitude comme, au fond, on ne le prenait pas très au sérieux. De son vivant, il y avait ce caractère, on se disait, au fond, Guitry, c'est un amuseur, c'est quelqu'un de gay, même s'il éprouve quelques souffrances, ça lui fera du bien. Il le dit lui-même. Mes amis voulaient pour mon bien que j'éprouve quelques souffrances, pour avoir plus de densité. Oui, bon. Non, on a été très lâche vis-à-vis de Guitry, d'autant plus que, vraiment, moi j'ai bien regardé le dossier, non pas pour poursuivre un procès contre Guitry, parce que je trouve que ça n'a rien à voir, moi je sais pas, la littérature de l'action politique, bon, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, le fait qu'il soit intervenu pour demander la libération de prisonniers français aux Allemands qui venaient voir ses pièces, mais elles venaient voir ses pièces comme on jouait les pièces de Camus, les pièces de Sartre, de la même façon. Donc il y avait faire jouer ses pièces sous l'occupation, c'est une chose qu'on imagine mal, mais c'était comme ça, tout le monde faisait jouer ses pièces. Comme les gens publiaient des livres avec l'autorisation de la censure allemande. Mais on considérait qu'est-ce qui lui arrivait, on ne le prenait pas au sérieux, et ça a donné naissance à ce très beau livre qui s'appelle 50 ans d'occupation, où au fond, il s'est montré sous un jour doux amer, il a montré ses 40 jours à Fresnes, il a montré la méchanceté, l'absence de soutien et l'absence de résistance au sens de soutien de ses amis, des gens notamment qu'il avait aidés. Voilà. Il y a un petit peu d'amertume, mais très peu. Il y a surtout, finalement, parce qu'il avait une grande pitié de la condition humaine. Je pense qu'il connaissait les hommes et il savait que les hommes, eh bien, ils sont surtout bien quand tout va bien. Et dès que les choses commencent à aller mal, eh bien, ils deviennent un peu sauvages. Donc, c'est ce caractère. Mais ça ne l'a pas détruit, puisqu'il a pu, après la guerre, refaire des films. Il a pu s'exprimer. Et finalement, ce que je trouve très rassurant, c'est de voir un jeune public aller voir ses films et maintenant de voir que ses pièces sont rejouées. Alors, il y a une difficulté, évidemment, très importante pour ces pièces, c'est que certaines ont été adaptées au cinéma, où il y a eu ces films où il jouait un grand rôle, et c'est très difficile, évidemment, de sortir de l'image de Guitry jouant du Guitry avec d'autres acteurs. Ça pose un problème. Néanmoins, il y a eu de très grands rôles, les gens ont tenu le rôle de Guitry d'une façon excellente. Donc, cette période, ça a été, disons, un mauvais moment à passer, et finalement, il l'a passé, alors que d'autres écrivains ont eu plus de difficultés.
Vous savez que dans Paris Match, du jour de sa mort, quand on annonce sa mort, il y a une revanche. Est-ce que vous savez qu'on a annoncé qu'il avait, lui, avait refusé d'être à l'Académie? Alors, je n'ai jamais compris si c'était une coquetterie ou pas, parce que voilà ce que dit Paris Match. L'auteur qui a refusé d'entrer à l'Académie française pour conserver son métier d'acteur. L'homme qui a incarné pendant un demi-siècle l'esprit et la séduction que le monde entier confondait avec le nom même de Paris, s'est éteint. Alors, est-ce qu'on lui a proposé un jour d'entrer quand même à l'Académie, ou est-ce que c'est pure coquetterie post-mortem, au fond? C'est une histoire à la Guitry, ça.
Écoutez, il est possible que certaines personnes aient proposé à Guitry de rentrer à l'Académie s'il cessait de jouer. Je vous ai dit, parce que les acteurs ne sont jamais rentrés à l'Académie. Et ça posait un problème pour André Roussin, qui avait été acteur, et je crois même pour René Clair, qui avait été acteur. Après, les choses se sont calmées, mais c'est vrai que je pense à l'acteur Talma, qui en avait proposé, l'Académie avait proposé d'entrer, et puis qui avait refusé, je crois, parce qu'il considérait que ce n'était pas sa place. Néanmoins, ce n'est pas parce que quelques personnes avaient proposé à Guitry de rentrer qu'il était élu. Je crois qu'il y avait quand même une sorte de... Il n'y avait pas un mouvement, si vous voulez, suffisamment fort. Sinon, je pense qu'il aurait accepté parce que c'est un homme qui était... Il l'aurait accepté en souriant, parce que je pense que ça incarnait bien. Il y avait été des auteurs comme La Fontaine, ou Alfred de Musset, ou bien d'autres, qu'il admirait. Donc je pense que, disons, l'Académie n'a pas fait des avances suffisamment fortes. Mais vraiment, c'est un dossier sur lequel je ne me suis pas vraiment penché. Je n'ai qu'une vision très superficielle.
Il y a un dernier point de Guitry qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il a quand même découvert et lancé des acteurs extraordinaires. Rému, bon, tout le monde oublie aujourd'hui qu'il a, c'est lui qui a découvert Louis de Funès, c'est lui qui a découvert Michel Serrault, dont on a parlé récemment. Donc ça, c'est assez extraordinaire. C'était un découvreur non seulement de femmes, puisqu'on a beaucoup parlé des femmes, de la manière dont il a fabriqué, au fond, Jacqueline de Lubac, où il a fabriqué des femmes actrices. Mais il a eu beaucoup plus la main, plus heureuse avec les hommes, finalement. Donc, est-ce que c'était un créateur aussi d'êtres humains? Est-ce qu'il aimait pétrir l'être humain? Ça, c'est un côté de Guitry qui est très extraordinaire.
Je veux dire, je crois qu'il ne faut pas mettre tout sur le même pied. Je pense que c'est déjà un grand créateur, c'est déjà un homme qui a un artiste de première grandeur, qui a fait une œuvre qui a toutes les chances de rester. Je crois que c'est ça l'essentiel. Ensuite, à la fois dans ses romans, dans ses confessions, dans ses pièces, dans ses films, C'est un créateur, c'est un artiste, il a une vision, il a un talent, il a une magie. C'est déjà énorme. Ensuite qu'il ait découvert des acteurs, c'est là où il est, disons, il en a découvert beaucoup. Mais comme Jean Renoir, on a découvert énormément beaucoup. C'est un rôle de disons, c'est normal qu'un grand metteur en scène découvre des acteurs. Mais c'est vrai qu'il avait la main heureuse parce qu'il aimait le talent, voilà. Je crois que c'est vraiment une de ses caractéristiques, c'est qu'il avait la passion du talent, et il aimait vraiment les acteurs. Il aimait les acteurs, il n'était pas de ces hommes qui aiment faire souffrir les acteurs. C'est son point commun d'ailleurs avec Jean Renoir. C'était un homme qui était un homme généreux et qui aimait extraordinairement les acteurs. Il les comprenait, il les chérissait. Et qu'ils soient beaux ou laids, comme Pauline Carton que vous avez évoqué, c'est vrai. Ce qui lui plaisait, c'était leur personnalité et la variété des caractères humains qui pouvaient apparaître à travers tous les acteurs qu'il a fait travailler. Et c'est un peu comme l'écrivain qui aime, au fond, des gens très différents. On voit dans un roman de Stendhal, il y a tout, il y a une Duchesse, il y a un bandit, et tous. Dans leur genre, ont une particularité, des traits humains différents, mais l'auteur les aime tous. Je crois que le théâtre, le cinéma était une occasion de satisfaire une immense curiosité humaine et une très grande générosité. Générosité, il aimait les faire travailler, il aimait être avec eux, et au fond, il devait souffrir de la solitude. C'est un homme qui devait aimer ce travail collectif, ce travail qu'on fait à plusieurs, où chacun est nécessaire dans son domaine, à la fois l'éclairagiste, le directeur de la photo, les acteurs. Voilà, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail collectif. Et je pense que ce qu'il a aimé, au fond, c'est cette collectivité. Et tous les gens qui l'ont rencontré ont été séduits par ce caractère d'homme généreux. Et puisque tout à l'heure, on parlait de la période de l'occupation, Alain Decaux l'a très bien connu, puisque Alain Decaux a été justement chef de ce réseau de résistance qui a été chargé de s'occuper de la maison de Guitry et d'éviter qu'elle soit pillée. Et c'est comme ça qu'Alain Decaux a connu Guitry. Et d'ailleurs, Guitry a été tellement heureux de rencontrer Decaux. Il y a eu entre eux une entente très très forte au point que Guitry a fait cadeau à Alain Decaux d'une émeraude que celui-ci a enchâssée dans son épée d'académicien. Vous voyez, donc on revient quand même par un biais bizarre à l'Académie.
Pour laisser le dernier mot à Guitry et à vous, je vous demanderai si vous pouvez simplement lire ce petit paragraphe que Sacha Guitry consacre à Tristan Bernard.
Extrait de Portrait anecdote. Lorsque Tristan Bernard s'est présenté à l'Académie française, il y a un an de cela, cette candidature a été accueillie dans le monde des lettres et par le public avec la plus charmante sympathie. Mais peu de gens l'ont prise au sérieux. Il obtint 2 voix sur 39 votants et personne ne s'en étonna. Pourquoi trouve-t-on cela naturel? Parce que Tristan Bernard est un auteur gai, dont on dit qu'il est humoriste, parce qu'il a de l'esprit. Je ne vais pas jusqu'à prétendre qu'il faille n'avoir pas d'esprit pour être académicien. Mais cependant, nous ne pouvons pas oublier que Piron a dit en passant devant l'Académie, ils sont 40 qui ont de l'esprit comme 4. En France, comme partout ailleurs, il faut être ennuyeux pour être considéré. Eh bien, je crois, j'ajoute mon grain de sel, je partage tout à fait cette opinion de Guitry. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai développé d'ailleurs tout à l'heure. Je crois qu'hélas, les Français eux-mêmes, qui sont tellement, dont toute leur tradition est une tradition de la gaieté, c'est Voltaire, vraiment, c'est Voltaire, ont un peu peur de cette tradition et un peu peur qu'on leur tende leur miroir. Et ils préfèrent une veine plus allemande, de sérieux, Herr Doktor, vous voyez. Et ils sont attirés par les gens sérieux. Voilà, ils sont comme ça. Les Français sont multiples. Ce sont des gens gays qui veulent passer pour tristes. Et ce sont des gens pleins d'esprit qui préfèrent les gens d'un savoir solide et un peu indigeste.
Merci Jean-Marie Roire.
Merci.